Je pense que tous vous avez entendu la nouvelle, n'est-ce pas? Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous entendons des cris de joie dans notre pays, et en tant que Français, moi je suis content, je pense que ça s'entend à ma voix d'avoir fêté la victoire des Bleus. Mais chose merveilleuse, chose plus merveilleuse, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La mort n'a pu le retenir, et il est vivant aujourd'hui. Cette joie que nous expérimentons en ce moment, si nous sommes Français, peut-être moins si nous sommes Croates, mais cette joie, en fait, elle n'arrive pas à la cheville de la joie de savoir que Christ est mort pour nous, mais la mort n'a pu le retenir. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce culte que tu nous permets de passer ensemble. Donne-nous de pouvoir regarder à ta parole. Donne-nous de pouvoir la comprendre. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes, et nous lirons le tout premier psaume. C'est à la page 629 des Bibles bleues devant vous, sauf erreur de ma part. Page 629, nous lirons le psaume premier. Nous regarderons ce soir au psaume premier, dimanche prochain au psaume 2. Psaume premier, nous lirons tout ce psaume, page 629. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le livre des psaumes commence en nous expliquant qu'il n'y a que deux manières de vivre. Deux manières de vivre. Il y a la voie du juste et la voie de l'injuste. Deux manières de vivre. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. L'auteur de ce psaume commence sa description du chemin du juste au premier verset en rapportant non pas ce que l'homme juste fait, mais ce qu'il ne fait pas. Le juste ne doit pas agir comme l'injuste, comme le méchant, le pécheur, le moqueur. Heureux seras-tu si tu ne suis pas le chemin de l'injustice. Il y a dans ce premier verset comme une double progression. Le méchant qui devient pécheur, qui devient moqueur, première progression, et ensuite celle du mouvement que nous regarderons dans un instant. Le méchant, le pécheur, le moqueur. Le méchant, c'est celui qui, par définition, est l'opposé du bon. Des personnes qui commettent des actes injustes, qui s'opposent à Dieu et au juste. La méchanceté fait partie intégrante de notre nature pécheresse. Ainsi, nous sommes parfois méchants sans même nous en rendre compte. Et même lorsque l'on s'en rend compte, nous n'arrivons pas à changer. Nous n'arrivons pas à faire le bien. Parce que nous sommes pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu, mais qui n'arrive pas à l'accomplir, ou pire encore, qui rejette la volonté de Dieu. Cet endurcissement du cœur qui va amener jusqu'à la moquerie. Le moqueur, c'est celui qui se moque de ceux qui cherchent à être justes, dans ce psaume. C'est celui qui rit du péché, du jugement. C'est celui qui rit de Dieu lui-même. Ainsi, l'homme, dans l'engrenage du péché, passe de méchant à pécheur, puis de pécheur à moqueur. Voilà ce qui arrive à l'homme qui marche sur le chemin de l'injustice. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne se tient pas et ne s'assied pas avec les méchants, les pécheurs, les moqueurs. Voilà la deuxième progression, celle du mouvement. Celui qui marche, puis qui se tient, puis qui s'installe. qui s'assied avec les moqueurs. Ainsi, l'homme marche, puis fait une pause, en considérant la voix des méchants, puis qui décide d'y rester. Après avoir considéré leurs conseils, l'homme va se tenir sur leur chemin. Quelque chose d'intentionnel. Pour finalement s'asseoir, s'installer en compagnie des autres moqueurs. La double progression dans ces versets. Au moyen de cette double progression, l'auteur de ce psaume et Dieu lui-même nous rappelle l'engrenage vicieux du péché. Le péché appelle le péché. D'une pensée, on arrive à la moquerie. D'un ralentissement, l'on arrive à un arrêt complet de notre marche avec Dieu. L'homme juste, lui, ne rentre pas dans l'engrenage du péché. Il continue dans sa marche avec Dieu sans prendre en compte le conseil des méchants. Il ne suit pas leur voie. Il ne prend pas en compte les moqueries qu'il reçoit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Verset 2. L'homme juste trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, parce qu'il sait qu'il y trouve comment vivre pour plaire à Dieu. Si le péché était un cercle vicieux, faire de la loi de Dieu son sujet d'attention est à l'inverse, lui, un cercle vertueux. Si nous la méditons, alors tout le reste suivra également. Le juste met toute sa joie dans la loi de l'Éternel, loi qu'il médite jour et nuit. Mettons-nous notre joie dans la loi de Dieu, dans sa parole? Est-ce que nous la méditons jour et nuit? C'est primordial de le faire, parce que c'est la voie du juste. Et si nous ne mettons pas notre joie dans la loi de Dieu, où la mettons-nous? Dans le conseil des méchants? Dans notre propre jugement des choses? La clé, nous dit ce psaume, pour ne pas tomber dans l'engrenage vicieux du péché, c'est de faire de la Bible son sujet de joie et le sujet de ses pensées. Lire sa Bible chaque jour est important. C'est une des clés de la foi chrétienne. Je ne connais aucun chrétien solide dans sa foi qui ne lise pas sa Bible chaque jour. Et pareillement, je crois que je ne connais aucun chrétien chancelant qui lise sa Bible chaque jour. Mettons-nous notre joie dans la loi de l'Éternel. La méditons-nous jour et nuit. L'homme juste met toute sa joie dans la loi de l'Éternel. Et chose merveilleuse, verset 3, il sera transformé par cette lecture dès aujourd'hui. Il ressemble, l'homme juste, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Le psalmiste utilise ici l'image de la nature pour décrire les bienfaits de la lecture de la Bible et les conséquences dans notre vie de cette dernière. Celui qui se ressource constamment en l'Écriture est tel un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit, parce qu'il est constamment approvisionné en eau. Voilà l'image que le psalmiste utilise. Celui qui fait de la loi de l'Éternel son sujet de joie et son sujet de réflexion constant ne sera pas desséché spirituellement. Il ne sera pas balayé par le vent lors de la sécheresse, puisqu'il ne dépend pas de la météo, c'est-à-dire des circonstances de la vie, mais ses racines puisent l'eau de Dieu directement. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Verset 4. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée du juste. Quel contraste, n'est-ce pas? D'un côté, il y a le juste et la vie. De l'autre, l'injuste et la mort. Il n'y a que deux sentiers, celui de la justice, celui de l'injustice. Et il n'y a pas de solution intermédiaire. C'est avec ce rappel de deux chemins possibles que le psaume 1 débute. Et plus encore, je crois que c'est avec cette perspective-là en tête qu'il faut lire le livre des psaumes. Il n'y a que deux chemins de vie possibles. Heureux l'homme qui fait de la loi de l'Éternel ses délices et la médite jour et nuit. C'est un psaume qui est beau. Dans sa structure même, il est beau. Mais il y a un problème. Et un problème de taille. Ce psaume qui paraît simple de premier abord est en réalité intenable dans sa simplicité. C'est intenable, il y a les justes et les injustes, rien d'autre. Il n'y a pas de troisième catégorie de ceux qui disent « j'essaye d'être juste mais j'y arrive pas, parfois j'arrive pas ». Non, il y a les justes et les injustes. Et si nous regardons à ce qui est écrit concernant les justes et les injustes, une première conclusion s'impose à nous. Je ne fais pas partie, nous ne faisons pas partie des justes. Nous ne faisons pas partie des justes. Ne nous arrive-t-il pas de suivre les conseils des méchants? Ne nous arrive-t-il pas de nous moquer des efforts des autres? La loi de Dieu est-elle constamment pour nous un sujet de joie? La méditons-nous jour et nuit? Si ce n'est pas le cas, alors nous ne sommes pas justes. Dans quelle catégorie entrons-nous? Nous aurions envie de dire d'une certaine manière peut-être dans les deux. Parce qu'au contraire des injustes, nous essayons peut-être de mettre notre joie dans l'Éternel. Nous essayons de marcher non selon les voies de ce monde, mais selon les voies de Dieu. Mais au contraire du juste, nous n'y arrivons et nous n'y arriverons pas pleinement. Si nous ne sommes pas pleinement justes, alors nous sommes de fait injustes. Comment comprendre ? Comment comprendre ? Pour comprendre cela, il faut regarder au but du livre des psaumes dans sa totalité. Parce qu'il y a une logique précise dans ce livre. Jésus, lorsqu'il cite le livre des psaumes, le fait majoritairement pour annoncer son œuvre, l'œuvre du Messie, du Sauveur. Le peuple est dans l'attente d'un Messie, d'un Sauveur, d'un juste, issu de la lignée de David, qui va justifier Israël. Le peuple est dans l'attente du Messie. Les deux premiers chapitres du livre des psaumes sont primordiaux pour comprendre cela. Au moyen des prières de David et des autres psalmistes que l'on retrouve tout au long du livre, le lecteur est invité à réfléchir sur l'identité de cet homme juste du psaume premier. Ce juste, et nous le verrons la semaine prochaine, qui est également le roi présenté au chapitre 2. Nous ne pouvons nous présenter juste devant Dieu. Le peuple ne pouvait se présenter juste devant Dieu. Le peuple est dans l'attente d'un juste, du juste de ce psaume premier, qui va venir justifier le peuple. Le Messie, lui, sera pleinement juste. Ce sera un homme qui ne marchera pas selon les conseils des méchants, qui ne se tiendra pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assiera pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la mettra dans la loi de l'Éternel, loi qu'il méditera jour et nuit. Qui est ce juste du psaume 1? Qui est ce roi du psaume 2? Voilà la question à laquelle le lecteur est invité à se poser. Qui donc est cet homme? Est-ce David? Les premiers psaumes peuvent laisser penser cela. Mais la suite du livre sera sans appel. David n'est pas le juste présenté au premier psaume. David commettra l'adultère, il commettra le meurtre. David n'est pas non plus le roi du psaume 2, sa royauté sera remise en question. Ce grand roi devra aller se cacher dans une caverne, tel un sans-palais, afin d'échapper à Saül. Est-il le grand roi du psaume 2? Non. Est-il le juste du psaume 1er? Non. Si ce n'est pas David, est-ce Salomon son fils? Le psaume 72, psaume de Salomon, peut donner cette impression. Il formule cette prière lors de son intronisation comme roi. Et si c'était Salomon? L'histoire montrera que ce n'est pas lui non plus. Il se détournera de Dieu, pire encore, il se tournera vers les idoles. Qui donc est cet homme juste du psaume 1er? Qui donc est ce roi du psaume 2? C'est avec cette question en suspens que le lecteur restera à la fin du livre. Un des buts du livre des psaumes est de nous amener à cette question. Mais qui donc est cet homme juste? Nous l'attendons encore. Qui donc est ce grand roi ? Les deux premiers psaumes servent d'introduction au livre tout entier. Ils résument deux grands aspects du Messie, deux grands aspects de Christ. Jésus est l'homme parfait du psaume 1, l'homme juste et parfait qui marche par la foi, selon le conseil de Dieu. Il est, et nous le verrons la semaine prochaine, le Fils de Dieu qui sera le vrai grand roi, roi à la royauté universelle. Ce n'est pas sans raison que le livre des psaumes est cité si souvent dans le Nouveau Testament, cité à 126 reprises dans le Nouveau Testament, parce qu'il contient des prophéties concernant Jésus lui-même. Tout au long du livre des psaumes, le Messie Jésus-Christ et son œuvre sont présentés. Christ est présenté tout au long du livre, il est présenté dans toute sa grandeur. Le livre des psaumes est utile pour nous aujourd'hui parce que c'est un livre qui nous permet de mettre des mots sur nos souffrances, comme ce sont des prières du peuple adressées à Dieu. Le psautier, le livre des psaumes, évoque toutes les situations de la vie, la joie, comme la douleur, la persécution, la maladie, la solitude, la pauvreté, le doute, le deuil, mais aussi l'espérance dans l'épreuve. C'est un livre magnifique. Mais si nous ne regardons pas ce livre dans sa totalité, si nous ne cherchons pas Christ dans ce livre, alors nous passons à côté d'annonces merveilleuses à son sujet. Christ est présenté tout au long du livre. Ainsi, Christ est le juste du psaume 1. Il est le roi du psaume 2. Il est le fils de l'homme présenté au psaume 8. Il est l'homme obéissant et dépendant de Dieu du psaume 16. Il est la vérité incarnée du psaume 17, il est la victime expiatoire du psaume 22, il est le bon berger du psaume 23, il est le fils en communion avec le père du psaume 40, il est l'époux glorieux du psaume 45, il est l'homme de douleur du psaume 69, il est le roi de paix du psaume 72, il est le malheureux souffrant injustement du psaume 102, il est le chef de louange du psaume 103, il est le souverain sacrificateur du psaume 110. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Voilà l'exhortation qui nous est lancée ce soir. Suivre l'exemple de Christ. Suivre l'exemple de Christ. Faisons de l'Éternel et de sa loi nos délices. Réjouissons-nous en l'Éternel. Réjouissons-nous que dans sa bonté, Dieu ait suscité un homme, Jésus-Christ, pleinement homme, pleinement Dieu. Un homme juste, Jésus, est venu sur terre afin de nous justifier, parce que nous n'arrivions pas par nous-mêmes à être justes. Si nous pouvons nous dire justes aujourd'hui devant Dieu, ce n'est pas parce que nous avons réussi à appliquer parfaitement ces versets, mais c'est parce que Christ, lui, les a pleinement vécus pour nous. Chose plus merveilleuse encore. La condamnation de l'injuste présentée dans les versets 4 et 5, Jésus-Christ l'a aussi vécue, afin que nous n'ayons, nous, pas à la vivre. Oui, Jésus-Christ, le juste, a donné sa vie pour nous, les injustes. Lui, l'innocent, a pris la place du coupable. Le juste a donné sa vie pour les injustes, pour nous justifier devant Dieu son Père. À lui soit la gloire. Amen.